Salut à tous et bienvenue dans la prépa, moi c'est Flo et vous écoutez un nouvel épisode de mon journal d'entraînement et de réflexion personnelle. Alors aujourd'hui au programme, on va débrief les deux dernières semaines d'entraînement pour la Backyard Ultra. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. On va aussi parler des 20 km de Maretsu Dinan qui était une course en ligne, mais particulièrement en descente. Bon après voilà, ça c'est le jeu qui veut. Comment ça s'est passé? Et puis, on va également parler des 20 km de Maretsu Dinan parce que j'avais deux personnes que je suis en coaching pour l'instant qui ont été faire la course et qui ont brillamment couru ce week-end-là. Alors, pour la pensée pour moi-même, on va parler un petit peu de persévérance parce que je suis en préparation un peu plus mentale que physique pour ces deux dernières semaines avant la backyard. Donc, on va un petit peu voir comment je réfléchis par rapport à ça. Et enfin, le pourquoi tu fais ça, où je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment est-ce que je programme des semaines d'entraînement pour quelqu'un qui est un coureur débutant et qui aimerait bien se mettre à la course à pied. Parce que je pense qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ne savent pas trop comment commencer ou qui n'ont pas forcément les bases pour pas se blesser, pour pas, ou en tout cas réduire le risque de blessure, etc. Donc je vais vous expliquer un peu mon approche et puis j'espère que ça vous aidera. Alors pour ce qui est du volume des deux dernières semaines, donc comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je cherchais vraiment à rester au-dessus des 100 km. Donc la semaine précédente, je cherchais surtout à aller chercher une petite augmentation de 10%. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, il y a eu des petites erreurs de sommeil dans le cadre et c'était difficile pour moi d'aller chercher ces volumes-là, en tout cas en termes de récupération. Alors, il faut dire aussi que le mardi, j'ai profité des trail series pour faire mon mardi Vietnam. Alors, les trail series, c'est quoi? En fait, c'est des parcours de trail permanents qui sont mis pendant une semaine dans une région. Et en fait, on peut avoir le dossard qui nous donne une bière à l'arrivée. Moi, ici, je ne faisais vraiment pas pour le chrono. Donc voilà, désolé, l'orga, j'ai pas pris le dossard, mais j'ai quand même profité de votre parcours que je connais très bien parce qu'en fait, au final, c'est des parcours que je fais régulièrement par moi-même. Mais là, en fait, c'était surtout le même parcours que d'habitude, juste dans l'autre sens. Donc voilà, c'était assez intéressant et je m'étais dit, en fait, c'était une bonne manière d'aller voir comment ma jambe allait tenir et voir si, justement, je n'avais plus trop de soucis à remettre de l'intensité et tenir ça au niveau tolérance lactate. Donc voilà, là c'était assez cool. Alors moi justement le but c'était de mettre de l'intensité mais pas de me mettre dans le rouge pour le restant de la semaine. Je crois que sur le parcours je fais 1h26.52 avec mon chrono perso, donc chrono non officiel, ce qui me place vraiment bien en fait dans le classement. Quand je regarde après, je crois que je suis en 5e ou 6e, donc je suis assez satisfait de ça. Maintenant, voilà, ce n'est pas une course officielle pour moi. Et puis, c'est des courses qui sont prises avec des départs différés. Donc, il y a pas mal de variables encore en plus parmi ça. Mais en tout cas, c'était assez cool de se tester là-dessus et de se dire, voilà, les jambes sont en forme. Et on s'est bien amusé. Alors, par contre, du coup, suite à ça, on a refait un petit peu de zone 1 pour récupérer le mercredi. Donc mercredi, c'était vraiment un peu de la récup. Et puis jeudi, je me suis dit, je vais faire un peu de tempo, mais en montée. Donc c'est-à-dire, je vais essayer de faire monter, descendre, mais vraiment sur des distances un peu plus longues et rajouter du volume en fait sur ma semaine plutôt que d'attendre le week-end pour faire ce volume. Donc voilà, là j'ai pu faire une sortie d'une heure et demie jeudi en essayant de mettre un petit peu d'allure aussi en descente pour faire un petit peu de casse de fibres musculaires. Et en fait là je crois que mon système nerveux a été vachement impacté en plus de mon volume d'entraînement à la salle. Le vendredi ça a été compliqué pour moi d'aller mettre un entraînement, en fait. Donc, je suis simplement allé à la salle. J'ai essayé de faire du squat. Ça s'est bien passé. Donc, j'étais assez content. Mais en tout cas, je n'avais pas de volume de course. Et je m'étais dit, bah, au final, c'est peut-être pas plus mal si j'ai envie de faire un week-end avec une plus grosse sortie et pouvoir essayer de cumuler un peu ce volume du week-end. Parce que voilà, c'est vrai que je n'avais pas eu beaucoup de sorties longues depuis le début de l'année. Ça revenait un petit peu avec les 4 heures la semaine précédente. Ici, je me suis dit, OK, je peux split 3h30 environ et puis faire 1 heure à 1h30 le dimanche. Et donc, le samedi, ouais, j'ai été faire vraiment rando trail, 3h30, tranquillement. Voilà, c'était vraiment en zone 1 tout le long, pas se cramer, avec évidemment un peu de dénivelé positif. Et le dimanche... Voilà, récup, zone 1, très relax, sur tapis. J'avais pas du tout envie de faire ça à l'extérieur. Je me suis dit, je vais faire ça sur le tapis, aller à la salle et juste ne pas me taper la météo désastreuse qu'on s'est tapé ce jour-là. Parce que je crois qu'on a eu un gros orage, donc c'était pas très sympa. Donc voilà, ça c'était il y a 2 semaines. Et suite à ça, après ce volume de à peu près 10h15 sur la semaine de course, je me suis dit, OK, par contre, cette semaine-ci, là, on a 3 semaines de la backyard. Il faut quand même que j'essaye d'aller chercher un petit peu plus de volume que ça, c'est-à-dire une augmentation de 10%. Et donc, lundi, diagnostic mécanique, je me sentais OK. C'est-à-dire que au niveau de ma fréquence cardiaque au repos, je voyais bien que ça diminuait. Donc je voyais bien que j'avais une sorte de pic de forme aussi parce que ma variabilité de fréquence cardiaque augmentait, ce qui est un bon signe. Ma fréquence cardiaque au repos diminuait, ce qui est encore un très bon signe. Et je sentais qu'au niveau musculaire, en fait, tout se passait très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là, du coup, le mardi, comme j'étais très, très en forme, je me suis réveillé avec beaucoup d'heures de sommeil en plus. Je me suis dit, OK, là, on va faire l'entraînement que je préconise toujours vers la fin de ma prépa, c'est-à-dire monter, descendre, mais faire une sortie plutôt longue avec ce spécifique-là. Donc, j'ai été faire du seuil sur une côte de 2 km à 5%. Et en fait, ça fait à peu près, voilà, je crois que je faisais du seuil pendant 10 minutes. Et la descente, le but, c'était pas juste de récupérer, c'était de quand même garder une certaine allure pour faire de la casse, encore une fois, et vraiment là, se détruire, donc vraiment se mettre la cartouche bien spécifique, en montée comme en descente. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, je fais une sortie de 1h45. J'avais pris des glucides avec, je crois que j'ai consommé 80 grammes de glucides sur ma sortie, ce qui m'a permis, en fait, après le soir, d'avoir un excellent entraînement de renforcement musculaire également, parce que j'avais nourri mon corps pendant l'entraînement. Donc, ça n'a pas été dur à récupérer. Et franchement, c'était parfait. Voilà. Là, c'était vraiment la cartouche que je voulais me mettre cette semaine-ci. Le mercredi, je me suis dit, OK, j'ai mis une bonne cartouche. Je dois quand même encore faire du volume en faible intensité. Le sommeil, les métriques, tout ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une sortie moyenne de 1h30 à faible intensité, donc zone 1. Très bien passé également. Et là, on arrive le jeudi, donc ma deuxième spécifique de la semaine. Là, en fait, j'avais pas trop de plan. Enfin, en fait, mon plan, c'était vraiment, OK, maintenant, il faudrait que je fasse aussi un peu de trail plus spécifique la semaine, sur ma dernière semaine de volume. Comment est-ce que je fais ça? Et en fait, simplement, je me suis dit, OK, je vais juste mettre une sortie trail avec de la variation d'intensité. Donc, pas du seuil, pas du max, mais vraiment, enfin, en tout cas, on varie les plaisirs. Et j'ai simplement été faire la même boucle que j'avais fait le mardi précédent, donc, c'est-à-dire le trail series, le 21 km. Et je me suis mis vraiment à balle à ce niveau-là pour bien faire les choses. Et ça s'est très bien passé aussi. Donc, je fais 2 heures de sortie ce jour-là. Là, on est déjà quand même sur un beau volume. Hein. Donc, si je récapitule, on est déjà à plus ou moins 6 heures, 6-7 heures de cours sur ma semaine, sachant qu'il me reste vendredi, samedi et dimanche. Donc, le vendredi, là, c'était sortie récup. Une petite heure, une heure quart de récup, tranquillement. Samedi, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne sais pas mettre ma sortie longue. J'avais quand même pas mal de fatigue accumulée. Faut dire que le vendredi soir, j'étais un peu de sortie aussi, donc je me sentais pas non plus hyper reposé. Je me suis dit, OK, juste sortie récup et on met la sortie plus longue, 3 heures le lendemain. Chose faite. Donc le dimanche, dernière sortie longue de la semaine. Là, je suis parti sur 3 heures de trail. Intensité vraiment très relaxe. Et ça nous totalise en fait 11h30 sur la semaine, ça fait à peu près 117 km et 2300 mètres de D+. Donc le ratio de distance dénivelé positif comparé à septembre l'année passée, ou en tout cas août de l'année passée, bah, évidemment il est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Bah, en fait, la backyard, c'est pas une boucle où il y a énormément de dénivelé. Il y a entre 100 et 150 mètres de D+ sur 6,7 km. C'est vraiment pas fou en termes de ratio. Et en fait, j'ai vraiment envie de tenir sur la distance et le fait de courir plus longtemps plutôt que de focus en fait, sur le fait de devoir me mettre une cartouche en côte. Alors, c'est important de savoir se la mettre parce que ben, justement, l'économie de course, elle augmente au fur et à mesure qu'on fait des entraînements en côte, mais ici je pense pas que c'était le focus parce qu'on reste en Belgique, on n'est pas à la montagne, je vais pas devoir grimper pendant 10 heures d'affilée, c'est plutôt des côtes qui vont durer 2 à 5 minutes maximum sur le parcours, donc c'est pas non plus énorme, donc voilà, c'est pas mon focus et c'est pas la spécificité de la course. Donc la spécificité, c'est justement d'être capable d'enchaîner du volume à faible intensité et de le faire de manière économe. Là, on arrive à cette dernière semaine d'entraînement, donc la semaine actuelle, où j'ai eu un choix à faire. C'est-à-dire qu'on est à 2 semaines de la backyard. Dans les bouquins classiques d'entraînement marathon, on entend souvent qu'il faut faire 2 semaines d'affûtage avant une course. Moi, d'expérience, 2 semaines d'affûtage, ça me pose 2 problèmes. Il y a un problème physique et il y a un problème psychologique. Alors, le premier problème physique, c'est qu'en fait, 14 jours avant la course, je subis un désentraînement. Je coupe en fait mes stimuli trop longtemps en avance par rapport à la course. Et OK, je gagne une certaine fraîcheur, mais je sens que je perds un peu mon pic de forme du fait de ne pas avoir ces stimuli. Alors, ça a été un peu de recherche parce que je n'étais pas sûr de la méthode à appliquer. Et il y a quelques études sur des coureurs d'ultra qui est sorti récemment, enfin, au cours des dernières années, qui montrent que en fait, le tapeur doit faire 2 choses. Donc, le tapeur, c'est l'affûtage, doit faire 2 choses. C'est effectivement, on réduit un peu le volume, mais on ne réduit pas l'intensité ni la fréquence. Donc, suite à ça, je me suis dit, OK, cette semaine-ci, je vais quand même faire du volume, diminuer un peu mon volume, mais je vais garder la même intensité et surtout, je vais garder la même fréquence, c'est-à-dire que je vais courir tous les jours, pratiquement. Donc ça, jusqu'à présent, c'est chose faite. Alors, au niveau de l'intensité, j'ai gardé l'intensité. Donc, mon mardi Vietnam était une séance de côte où j'ai fait, en fait, sur tapis 5 minutes à 15% avec une récupération de 3 minutes à 3%. Et tout ça, je l'ai fait 6 fois. Donc, ça fait à peu près 600 mètres de D+ de cumulé. Donc, voilà, c'était plutôt sympa comme sortie. Suite à ça, mercredi, en fait, je me suis mis une récup pour être frais pour le restant de ma semaine parce que c'était une belle cartouche au niveau intensité. Même si le volume était relativement faiblard par rapport aux 2 dernières semaines. Jeudi, je me suis dit, OK, là maintenant, on va quand même aller courir et faire un petit peu de volume, mais un peu moins que d'habitude, sachant que la semaine passée, bah, le jeudi, j'avais fait 2 heures de volume. Cette semaine-ci, j'ai fait 1h20. Et il me reste maintenant 3 jours pour cumuler à peu près 4 heures, 5 heures d'entraînement. Donc le split va être le suivant. Je pense faire 1h à 1h15 aujourd'hui. On est vendredi à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je pense faire plus ou moins 2 heures ce samedi et plus ou moins 1h, 1h30 ce dimanche en fonction de la météo. Alors je pense faire un petit peu le format de la course pour établir un petit peu ma stratégie au niveau nutrition. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une boucle ici toute prête que j'ai fait pendant le 4x4x48 de le Goggins Challenge. Donc je pense faire cette boucle et partir toutes les heures et faire ça pendant quelques heures pour voir un petit peu comment je tiens et comment tout se comporte au niveau nutrition, etc. Donc juste pour tester un peu le matos en fait au final. Et après, bah, la dernière sortie, ça sera plutôt relax. Voilà, c'est le but, c'est juste de faire un petit peu de volume. La semaine prochaine, bah, c'est la semaine de la course. Donc clairement, là, qu'est-ce qui va se passer? On va diminuer le volume. On va quand même garder le mardi un peu intensif, mais avec moitié moins de volume. Je vais essayer de faire au final 2-3 heures de course entre lundi et mercredi. Jeudi, ça sera repos complet. Il n'y aura absolument rien. Et vendredi, je mettrai juste une petite activation de 30 minutes, histoire de réveiller un petit peu. Alors, pour revenir sur le tapeur, où j'expliquais justement qu'il y avait deux points qui m'embêtaient. Ben, le point physique, je l'ai expliqué. Le point psychologique, je ne l'ai pas expliqué. Donc, le point psychologique, en fait, c'est que quand je vois que je ne fais pas autant de volume, en fait, ma confiance dans mon état de forme diminue fortement. Et en fait, j'ai l'impression de tout oublier. Et en fait, j'aime pas du tout ça parce que je sais qu'au niveau de mon sommeil, ça va avoir un impact. Je sais qu'au niveau de mon mental, au début de la course, ça va avoir un impact. Et donc, je préfère en fait garder, on va dire, une certaine activité pour garder le mental le plus haut niveau possible et en essayant de préserver pour justement avoir la fraîcheur pour la course. Donc voilà, ça c'est la raison psychologique pour laquelle j'essaie d'avoir un tapeur un peu plus petit, parce que ben, en fait, je sais avec l'expérience que ça fonctionne mieux pour moi. La Wildstrubel, la GTLC l'année passée, ça a été deux courses où j'ai fait cette stratégie de tapeur et ça s'est très très bien passé. Donc il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne ou qui fait match nul. Donc voilà, ça c'est le gros débrief. On va parler un petit peu maintenant de Maretsu Dinan, qui était une course de 20 km. Et comme je l'ai dit, j'avais deux personnes que je suis actuellement en programme de course à pied qui s'alignaient sur la course avec un objectif qui était pour une de finir et l'autre objectif c'était en fait un peu tester le physique, où ça en était dans la prépa pour le marathon de Namur. Alors, premier cas, Pauline qui faisait son premier 20 km, finit en 1h58, si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié le 1h58-32. Je suis super fier de la prépa. Elle partait d'un background avec des distances qui allaient jusqu'à 10-12 km. Elle avait envie de préparer ça spécifiquement, avec un peu de flexibilité quand même dans le programme d'entraînement. Alors, pour elle, comme pour Sixtine, donc la deuxième personne que je suis, j'ai travaillé pas avec le nombre de kilomètres par semaine, mais j'ai travaillé avec la charge et j'ai travaillé avec le nombre d'heures à passer sur les jambes. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que bah, tout simplement, on n'avait pas de temps de référence. Je suis pas un mec ultra fan de la VMA, de faire des tests de VMA, etc. Avec des débutants, parce que ben en fait les débutants ils ont pas forcément des idées de chrono, ils ont pas forcément une bonne notion aussi de leur perception à l'effort. Et en fait je voulais d'abord travailler ça. Alors travailler avec le temps passé dehors, en fait ça permet aussi pour moi d'avoir une meilleure vision de la quantification du stress mécanique qu'on met. C'est-à-dire les temps qu'on passe dans les zones, comment est-ce qu'on sent à l'effort, et puis en faisant un bilan sur la semaine, est-ce que la charge est adéquate pour la personne ou non. Donc en fait, c'est un suivi plus précis. Ça me permet de garder un contrôle et dire, ok, la semaine passée, tu as quand même fait peut-être un peu trop par rapport à ce que j'imaginais, et on va en fait réduire un petit peu. Mais grosso modo, en fait, on a eu une progressivité de justement du temps de travail correct et une quantification du stress mécanique qui était très bonne parce que il y avait des douleurs qui étaient présentes de base. Et en fait, on a géré ces douleurs dans l'entraînement et on a rajouté ce qu'il fallait au niveau renforcement pour éviter d'avoir plus mal. Ou en tout cas d'aggraver le cas, mais tout en restant sur l'objectif. Alors, moi, je suis ultra content du fait qu'elle fasse moins de 2 heures, parce que dans sa tête, ce n'était pas du tout ça. Elle s'est inscrite en mettant un temps de 2h30, et ici, elle fait moins de 2 heures, donc c'est vraiment... c'est beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Ça donne aussi... une perspective de temps, d'avoir un chrono et de savoir à quoi on peut s'attendre pour les prochaines courses. Et en tout cas, ça donne aussi un temps de référence pour savoir comment on peut travailler les allures plus spécifiquement si elle décide de vraiment aller chercher une performance sur une des prochaines courses. Mais surtout, la base aérobie qu'on a construite, là, vraiment, c'est quelque chose de solide. Donc, sur 12 semaines, on a pu vraiment construire quelque chose de très solide. Et maintenant, on va pouvoir rajouter un petit peu de spécificité dans l'entraînement. Alors, pour Sixtine, c'est un peu différent. Sixtine, elle vient avec un syndrome de l'essuie-glace. Elle me demande une préparation pour le marathon de Namur en début janvier. Et le problème, c'est qu'il faut d'abord essayer de régler le problème du genou. Alors, elle avait fait de la kiné, ça a aidé, mais pas suffisamment. La douleur était toujours présente. Et en fait, donc elle m'a partagé son journal d'entraînement. Elle avait déjà un peu plus d'entraînement passé. Donc, j'ai pu voir en fait où elle en était globalement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... la même chose que pour beaucoup de coureurs débutants, c'est beaucoup trop d'intensité constamment. C'est-à-dire que les sorties n'étaient pas forcément... il y avait une certaine constante dans les sorties, mais ce n'était pas des hautes fréquences de sorties. C'était souvent des sorties qui étaient très longues par rapport au volume global. C'est-à-dire qu'on faisait 2 à 3 sorties, mais alors c'était des sorties longues, quoi. Pour le niveau, et puis au niveau de l'intensité, on était toujours au seuil, en fait, voire au-dessus, donc ça, c'était pas bon du tout, et en fait, là, au niveau de la quantification du stress mécanique, on était beaucoup trop haut, et il fallait remettre un petit peu d'aérobie là-dedans, et un petit peu de jog pour réduire le stress, en fait, sur le corps, et prendre le temps d'adapter. Donc c'est ce qu'on a fait, on a les 3 premières semaines, je lui ai dit, voilà, le but, c'est que là, moi, tu cours sans douleur. Donc, on va progressivement augmenter. Je ne vais pas te mettre de spécifique, je ne vais pas te mettre d'intervalle. Je vais juste te mettre du volume plus fréquent, moins longtemps sur tes sorties, mais juste voir à quel point le genou est capable de s'adapter. Et alors, faire tous les exercices au niveau de la hanche et le genou et le renforcement nécessaire pour essayer de guérir et de renforcer tout ça. Donc au bout de 3 semaines, en fait, elle courait sans douleur au niveau du genou. Et ce qui était cool aussi avec elle, c'est qu'elle marche pas mal en dehors des entraînements. Donc la marche, évidemment, ça rajoute un petit peu de volume à faible intensité. Une fois qu'on a commencé à courir sans douleur, là, on a pu commencer plus spécifiquement à construire la base aérobie et construire le volume. Et toujours avec un focus, donc de rester sans douleur et de pouvoir commencer à mettre de la spécificité. Donc j'ai voulu travailler VO2 max au départ, donc c'est-à-dire faire des intervalles courtes et puis augmenter le nombre d'intervalles par semaine et rajouter après du tempo. Alors mon focus pour sa prépa, vu que c'est une prépa marathon, premièrement, c'est sur le premier bloc, on allait clairement travailler VO2 max, augmentation du volume. Et ensuite, on allait progressivement augmenter les sorties longues. Ce qui était cool, c'est que plus ou moins à la moitié du parcours, on avait les 20 km de marée de Soudinan. Et ça nous a permis en fait, de voir un petit peu où on était. Sixtine finit avec un chrono de 1h45 et 32 secondes, ce qui est vraiment incroyable pour la préparation qu'elle a faite jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire que aller chercher un temps comme ça avec je crois qu'on est à 7 semaines de préparation, c'est juste génial. Moi, je suis super content, ses perfs. Après, je pense que le fait qu'elle courait déjà pas mal beaucoup avant, malgré les blessures, le fait qu'elle avait déjà fait des distances un peu plus grandes aussi, ça joue clairement sur les performances. Donc là, en fait, moi, je trouve que sa base aérobie, elle est très, très bonne. Elle arrive à faire des sorties longues de 2h30 à 3h. Et clairement, on commence à rentrer là dans le vif du sujet parce que le marathon, il est dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans 2 semaines, pardon. Et donc là, vraiment, on est sur les dernières semaines d'entraînement, dernières semaines de gros volume. Et après ça, on va rentrer dans un affûtage et faudra être prêt mentalement pour tenir ce marathon. Donc voilà, c'était super cool d'avoir les deux sur le parcours. C'était super cool de voir leur évolution. Si vous avez besoin d'un suivi, si vous débutez en course à pied, si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram ou la page Facebook de la prépa. Je serai ravi de discuter avec vous de vos objectifs, ravi de vous suivre dans vos objectifs. Et surtout, sachez que ma porte est ouverte pour le coaching à partir de maintenant.
This morning, I discussed the idea of the self as the basis of the universe.
Alors, la pensée pour moi-même, aujourd'hui, on va parler de persévérance, on va parler de travail mental, parce que je suis à 1 semaine de mon premier objectif de l'année, et la prépa mentale, ça fait partie de la prépa d'un objectif. Donc évidemment, je travaille un petit peu sur mes mantras, je travaille la visualisation de mon objectif, je travaille sur les moments difficiles que j'ai passés durant cette prépa et je me dis ok, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que je dois me rappeler de ça. Et en fait, dans Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, il y a une citation que je vais vous lire qui, je pense, va m'accompagner pendant cette course. Tout ce qu'il t'arrive est tel que tu es naturellement capable ou incapable de le supporter. S'il t'arrive des choses telles que tu sois naturellement capable de les supporter, ne te fâche point, mais supporte-les comme tu en es capable. Si elles sont telles que tu sois naturellement incapable de les supporter, ne te fâche point. Elles épuisent tes forces, mais s'anéantissent elles-mêmes en même temps. Rappelle-toi toutefois que tu es naturellement capable de supporter tout ce qu'il dépend de ton jugement de rendre supportable et tolérable en te représentant que tel est ton intérêt ou ton devoir. Alors, 2 choses à retenir de ça. La première, c'est que peu importe si c'est supportable ou insupportable, il ne faut pas se plaindre. Si c'est supportable, tu l'endures, tu fais le boulot, t'arrêtes de te plaindre. Si c'est insupportable, c'est la même chose. T'arrêtes de te plaindre et ta destruction par cette chose insupportable, en fait, ça signifiera aussi la fin de cette chose insupportable. Donc, souviens-toi, tu peux endurer tout ce que ton esprit peut rendre supportable. Et en fait, c'est tout ton intérêt de le faire. C'est dans ton intérêt, c'est dans ta nature. Il va y avoir des moments qui vont être durs dans cette course. Il va y avoir des moments qui sont inconnus, il va y avoir du doute, il va y avoir un manque de sommeil qui va créer un manque de lucidité. Et une chose que j'ai répétée à Lio avant son ultra, pendant son ultra, c'est tant que tu es capable de mettre un pied devant l'autre, tu es capable de le supporter, tu es capable d'avancer. C'est l'esprit qui est le frein. Et si l'esprit est maîtrisé, on est capable de tolérer, on est capable de souffrir et on est capable de supporter des choses pour l'objectif et justement pour aller chercher cette victoire. C'est dans mon intérêt de le faire, c'est dans ma nature d'être résilient, c'est dans ma nature d'être persévérant et je pense que je dois constamment me rappeler que je suis capable de supporter énormément de choses qui peuvent paraître insupportables pour la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que je me suis entraîné à ça. Parce que j'ai entraîné mon physique, parce que j'ai entraîné mon mental, parce que je me suis poussé toujours plus loin dans les limites, parce que je continue de me mettre dans l'inconfort de manière régulière et de manière conséquente. Et ça me permet de devenir de plus en plus résilient et de visualiser l'objectif en me disant « peu importe les travers, peu importe les difficultés, j'irai au bout. » Mon objectif, il est fixe, mon objectif, il est visualisé, je me vois passer ces 24 heures. Je pense qu'une fois que ces 24 heures seront passées, il n'y aura plus rien pour m'arrêter. Si j'ai encore de l'énergie, si je suis encore capable de le faire, il n'y aura rien pour m'arrêter. Ça, j'en suis persuadé. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui m'accompagne en ce moment, c'est de me dire que je suis capable de supporter, de tolérer énormément de choses. Et cette course, ça va être vraiment le moment d'utiliser toutes ces ressources et tous ces enseignements et toutes ces heures d'entraînement pour aller au bout et bien faire les choses. Si j'ai une défaillance avant, ce qui peut arriver, évidemment, on a beaucoup de variables. Si quelque chose m'empêche d'arriver jusqu'au bout, je sais que ça sera uniquement parce que je ne sais plus mettre un pied devant l'autre. Je sais parce que c'est uniquement parce que je suis plus capable d'aller chercher la boucle en moins d'une heure. Et que en fait, mon physique m'aura lâché. Mais tant que mon mental est là, et tant que je peux le faire, je le ferai. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc j'espère que ça va jouer, ça va porter ses fruits. Je ferai en sorte de me rappeler ça. Je vais me le noter sur le bras pour être sûr de m'en rappeler. Et pour être sûr de penser à ça dans les moments où ça va être très difficile. Parce que je ne compte pas du tout lâcher cet objectif. Ça fait un moment que j'ai besoin d'une petite victoire. Et depuis septembre, j'ai eu des échecs en course. J'ai eu des échecs dans d'autres choses. Et là, cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec. Il y aura une victoire, c'est certain. Donc voilà, ça c'est la pensée pour moi-même de cet épisode. Why are you doing this? Le pourquoi tu fais ça, cette semaine, on va parler de comment on peut se mettre à la course à pied, ou en tout cas, comment aborder la course à pied de manière un peu plus saine. Alors, j'ai un ami qui a commencé donc à courir il y a très peu, avec un objectif de pouvoir courir 5 km. Donc, typiquement, je cours pour ma forme. Et en fait, je vais reprendre un petit peu le concept de « je cours pour ma forme » pour vous expliquer comment j'imagine l'entraînement quand on est débutant et comment un peu casser le mythe de ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire toujours taper dedans, il faut toujours être à fond, il faut toujours être au seuil. En fait, « je cours pour ma forme » a une très bonne base d'entraînement. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est adapté à tous les niveaux, c'est adapté à toutes les corpulences. À part si vous êtes vraiment en obésité morbide, je pense que la course à pied, c'est peut-être pas le premier sport à faire. Peut-être que le vélo, c'est peut-être un peu plus accessible, et, ou la marche, en tout cas, pour éviter justement de mettre trop de charge sur les articulations, parce que la course à pied reste un sport d'impact. Et la course à pied a tendance à blesser vite les gens qui n'ont pas l'habitude de cette charge. Donc, ce que j'aime bien dans Je cours pour ma forme, c'est ce principe d'alterner course et marche. Alors, pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on court, si on n'a pas un cardiovasculaire qui est très développé, ben, en fait, on va vite être essoufflé. Et en fait, c'est un peu une introduction aussi aux intervalles, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va courir pendant X minutes et puis on va marcher pendant X minutes. Toute la progressivité du programme se fait en augmentant le temps de course et en diminuant le temps de marche. C'est super intelligent. Ça veut dire qu'on progressivement augmente la charge en diminuant la faible intensité. Par contre, il y a un piège, c'est que quelque chose qui n'est pas nécessairement pris en compte dans le programme, c'est que la course n'est pas forcément faite à faible intensité. Alors, ça va très bien marcher, jusque savoir courir 5 km. Une fois qu'on veut aller plus loin, ça va moins bien marcher. Pourquoi ? Parce que courir plus nécessite un peu plus de volume. Nécessiter un peu plus de volume, ça veut dire faire du volume à plus faible intensité. Pourquoi ? Plus on met de volume à haute intensité, plus on augmente le risque de blessure. Or, je cours pour ma forme, c'est un 5 km, ça reste une grande distance pour la plupart des gens, mais une fois qu'on dépasse les 5 km, qu'on va chercher les 10 km, on va devoir avoir un peu plus de volume et on ne veut pas du tout mettre autant d'intensité. Plus on va chercher de distance, moins on veut mettre de l'intensité, mais on veut mettre quand même plus de volume. Donc il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable de gérer du haut volume, haute intensité. Il n'y a aucun coureur professionnel qui fait ça. Il y a dans tous les coureurs de haut niveau, que ce soit 5 km ou 10 km, marathon, ultramarathon, tous les coureurs vont avoir 80% de leur volume à faible intensité et 20% de spécifique. Alors oui, sur des semaines à 180-200 km pour des marathoniens de haut niveau, bah, évidemment, 20% d'intensité, ça reste quand même des gros volumes, mais au final, leur volume reste à faible intensité tout le long, et ça, c'est justement pour préserver leur corps et être capable d'en faire plus sur l'année. Donc voilà, première étape, si vous voulez commencer à courir en course à pied, alternez la course et la marche. Commencez par 20 minutes, vous allez alterner 2 minutes de jog, 3 minutes de marche, puis vous allez inverser, 3 minutes de jog, 2 minutes de marche. Quand je dis jog, c'est vraiment du jog très léger, c'est-à-dire que ça doit être un pace qui est confortable, c'est une allure que vous êtes censé savoir tenir quand même sur une grande période de temps, et vous ne devez pas avoir du mal à trouver l'oxygène pour finir vos phrases si vous êtes en train de discuter. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ensuite, vous allez augmenter la fréquence de vos sorties, c'est-à-dire le nombre de fois que vous allez courir sur la semaine. C'est mieux de courir 30 minutes plusieurs fois sur la semaine que de courir moins de fois sur la semaine et de courir plus longtemps. En fait, plus vous courez, donc plus vous augmentez la fréquence de course sur votre semaine, plus vous allez toujours avoir des stimuli au niveau corporel et donc demander des adaptations à votre corps. Plus vous demandez ces adaptations, plus votre corps s'adapte, ce qui est logique. Plus votre corps s'adapte, plus vous êtes capable de faire du volume. C'est en fait un cercle itératif. Il suffit de faire de la progressivité et on va privilégier la fréquence et non la longueur des sorties au début pour justement bien faire en sorte que le corps s'habitue à la charge et surtout le faire sans douleur. Donc voilà, ça c'est mes principaux conseils. En tout cas pour commencer en course à pied. Vous pouvez prendre le programme Je cours pour ma forme ou Couch to 5K ou vous pouvez contacter évidemment la prépa sur Instagram ou sur Facebook si vous avez déjà vos 5 km et que vous souhaitez aller chercher des distances plus élevées ou si vous souhaitez vous améliorer. Donc ça, vous pouvez évidemment faire une demande de coaching à la prépa. Mais en tout cas, essayez de comprendre cette notion de progressivité, cette notion de ne pas devoir mettre de l'intensité. Vous ne devez pas être rouge tomate à la fin de votre sortie. Ce n'est pas nécessaire, en tout cas au début. Il faut savoir que si vous avez un objectif de course en tête, vous serez capable de souffrir le jour de la course et vous n'avez pas nécessairement besoin de souffrir à l'entraînement. Donc voilà, ça c'est mes conseils principaux pour débuter. Et ça conclut l'épisode de cette semaine. Donc je vous souhaite à tous évidemment une bonne semaine d'entraînement, de gros grind dans vos projets. La semaine prochaine, pour moi, c'est la backyard. Donc je ferai en sorte de faire un suivi. En tout cas, je vais essayer de set-up un suivi de la course pour vous, pour que vous puissiez suivre l'avancée. Et on débriefera de toute façon tout ça ensemble après. Hein. Donc je prendrai quelques jours de repos, j'imagine, parce que si la destruction n'est pas totale, alors c'est que je n'ai pas réussi, ce que je voulais faire. Donc on se revoit le plus vite possible après la backyard. N'hésitez pas à suivre la prépa podcast sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas évidemment à vous abonner au podcast si vous le découvrez. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec le plus grand nombre, surtout avec les coureurs débutants. Je vous dis à la prochaine et ciao !